Alors, j'ai voulu combler une lacune en créant moi-même et en établissant à Paris un centre d'études océanographiques étroitement relié avec les laboratoires et collections du musée océanographique de Monaco, où je réunis depuis 20 ans les résultats de mes travaux personnels et ceux des éminents collaborateurs qui me sont venus de tous les pays d'Europe. C'est en ces termes que le prince Albert Ier évoque les raisons qui l'ont poussé à créer les deux établissements qui constituent sa fondation dans un courrier de 1906 adressé au ministre français de l'instruction publique. Un siècle plus tard, dans le cadre de la cérémonie du centenaire de l'Institut océanographique de Paris, Son Altesse Sérénissime Albert II dévoilait la plaque de la Maison des Océans, poursuivant ainsi l'œuvre de son trisaïeul. Création de l'Association des Amis du Musée Océanographique, présidée par Madame Safia Al-Rachid, réaménagement du rez-de-chaussée bas de l'Institut par l'architecte Pierre-Michel Delpeuch, pour mieux accueillir la communauté des scientifiques, et dès cet automne, le premier colloque sur les grands fonds.
La maison des océans, la maison du patrimoine commun de l'humanité que sont les océans, mardi 21 juin, dans le cadre des cérémonies du centenaire de l'Institut océanographique de Paris, Son Altesse Sérénissime Albert II a dévoilé la plaque qui caractérise plus que jamais l'Institut océanographique de Paris, fondé il y a 100 ans par son trisaïeul au cœur du quartier latin, un centenaire qui signe la nouvelle feuille de route de l'Institut. Son rôle clé de carrefour pour les chercheurs du monde entier et de vulgarisation des connaissances auprès du grand public, Michel Petit, président de l'Institut océanographique.
Depuis 2006, on a changé les statuts. On avait des statuts qui étaient devenus un peu inadaptés avec deux organismes dont les responsabilités n'étaient pas clairement définies, qui avaient tendance un peu à entrer en conflit l'un avec l'autre. Et maintenant, on a un organisme unique qui est le conseil d'administration et la partie conseil scientifique qui était avant par le conseil de perfectionnement est maintenant confiée un conseil scientifique, mais qui a clairement un rôle consultatif auprès du conseil d'administration, qui évidemment joue un rôle fondamental, mais qui n'a pas de responsabilité dans la gouvernance même de l'institution. Et d'autre part, nous avons prévu l'existence d'un directeur général unique pour les deux établissements. De la même façon, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est président d'honneur de la fondation, mais le conseil d'administration comprend deux représentants de son gouvernement. Donc même au niveau de la gestion au jour le jour, le point de vue monégasque est parfaitement entendu et défendu au sein du conseil d'administration. Donc il y a eu incontestablement un rapprochement très marqué entre la principauté et la fondation à l'occasion de ce renouvellement.
Une articulation plus forte entre Monaco et Paris, la fermeture du centre de la mer devenu désuet et l'espace ainsi libéré qui sera réhabilité par la société Iosis, l'architecte Pierre-Michel Delpeuch, celui-là même qui a rénové le palais Brongniart et le Muséum national d'histoire naturelle, la création de l'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco. Son but, favoriser le développement et le rayonnement du Musée océanographique de Monaco et soutenir les différentes actions qu'il mène sur le plan national et international. Safia Al-Rachid, présidente de l'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco.
Le rôle de l'Association donc des Amis du Musée océanographique Monaco, le but en fait est surtout de réveiller en fait les gens à Monaco et en fait également le reste de la France en fait, comme quoi on a cette association pour récolter en fait des fonds pour aider, comme on a dit auparavant, en fait, les océans et également en fait, de faire plusieurs manifestations dans le musée océanographique également. Et donc c'est le but principal.
Réveillé il y a 100 ans, ainsi que le rappelait Son Altesse Sérénissime Albert II, la science océanographique n'existait pas. C'est Monaco qui l'a créée à Paris il y a 100 ans également. L'océan faisait peur. Il était envisagé comme une menace. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut protéger l'océan autant que le découvrir. Un rôle de vigie et de visionnaire dans la droite filiation d'Albert Ier, Thomas Fouilleron, chargé de recherche en histoire.
Oui, je crois effectivement dans le sillage de l'action de son trisaïeul. Je dirais que le message de la principauté, justement du fait de son exiguïté territoriale, c'est d'être un petit peu, comme le prince Albert Ier l'a été, d'être un peu le phare, une figure de proue qu'a été le prince Albert Ier, d'être parfois justement en avance sur son temps, d'être un petit peu la vigie des grands problèmes et... comme le prince Albert Ier l'a voulu, de faire de Monaco une sorte de laboratoire de ce qui peut se faire ailleurs dans de plus grandes étendues, évidemment. Mais l'avantage de la principauté, c'est qu'effectivement, c'est sa petitesse, justement. C'est le fait que tous les leviers sont dans, je dirais, presque la même main, et ce qui permet d'expérimenter et finalement d'être un créateur de modèles.
Parmi la pléiade de scientifiques présents, les cérémonies de remise des médailles de la Société d'Océanographie de France et de remise des grandes médailles Prince Albert Ier se sont tenues dans le cadre de la cérémonie du centenaire. Les habitués de l'Institut Océanographique de Paris ne se sont pas cachés voir d'un très bon œil le fait que l'Institut devienne le lieu naturel de rencontre de la communauté scientifique.
Oui, j'ai connu la première partie aussi. Moi, j'ai participé ici à vos activités, aux conférences. Et je crois que c'est un nouvel envol. Et je crois que les idées, les scientifiques, les animateurs, tous les gens qui ont travaillé dans cet institut ont de l'énergie et je crois qu'ils vont mettre le paquet pour que ce soit encore plus beau et plus fort encore pour faire connaître en particulier le plancton qui est vraiment indispensable à la planète.
C'est Pierre Molot, bien sûr, est-ce Monsieur Plancton ? Et pour qui vient et est déjà venu assister aux conférences scientifiques de l'Institut Océanographique de Paris, elles sont ouvertes au grand public, c'est gratuit, elles se tiennent le mercredi soir, et bien Denis Allemand, les récifs coralliens, n'est pas un inconnu bien sûr non plus.
L'Institut Océanographique à Paris, c'est une fenêtre de l'océanographie, donc c'est très important. Les recherches ne doivent pas se contenter de rester dans les laboratoires, il faut qu'elles s'exportent, il faut qu'elles soient connues. On ne peut aimer que ce que l'on connaît, donc il est absolument nécessaire de faire connaître et aimer au public ce qui se fait dans les laboratoires. C'est le rôle de l'Institut Océanographique à Paris.
En termes imagés, l'usine est à Monaco, la boutique est à Paris. Dès le mois d'octobre, la Maison des Océans accueillera un colloque majeur sur les grands fonds. Michel Petit, président de l'Institut Océanographique.
Les grands fonds étaient un des sujets qui avait été à l'ordre du jour de la première Monaco Blue Initiative. Et nous avons décidé d'y consacrer un colloque dans le cadre de la célébration du centenaire. Et ce colloque va donc se tenir en octobre dans les locaux même de l'Institut Océanographique de Paris.
100 ans, il y a 100 ans, c'était l'homme qui était fragile face à la mer. Aujourd'hui, c'est la mer qui est fragile face à l'homme. Pour découvrir le travail d'explorateur et de visionnaire d'Albert Ier, prince de Monaco, et pour connaître un peu mieux les océans, une exposition attend le visiteur depuis le 22 juin, entrée libre à l'Institut Océanographique de Paris, la Maison des Océans, donc 195 rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris.